et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, là où ça se passe, là où ça creuse.
En direct du studio 611, une émission dans la mémoire à vif, réalisée par Clément Nougui, assistée de June Loper, avec Stéphane Boja à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, quand l'extrême droite espagnole refait surface. Retour sur l'histoire de René Laffont, journaliste française fusillée par les franquistes.
René Laffont, c'est une journaliste française qui a été la première femme assassinée dans un conflit mondial. Elle est dans une fosse commune, à Cordoue, avec 2000 autres corps.
Pour la première fois des 40 ans de l'histoire de la démocratie espagnole, on a un parti d'extrême droite qui entre dans un gouvernement régional, en l'occurrence Vox, qui est un parti foncièrement anti-immigré, foncièrement contre le droit des femmes.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui
Comme un bruit qui court ce week-end dans la salle des fêtes d'un petit village de la Meuse, près de Commercy, qu'on réinvente la démocratie. À l'heure où notre président parcourt la France pour tenir son grand débat devant un parterre d'élus choisis, que certains ont déjà rebaptisé « grand discours », à Sorcy-sur-Meuse, les Gilets jaunes de Commercy posent aujourd'hui et demain les premiers jalons d'une organisation politique axée sur les principes de la démocratie directe. Car à Commercy, comme partout en France depuis deux mois, on se rassemble autour des ronds-points. Mais dans cette petite ville ouvrière de 5800 habitants, il s'est passé quelque chose de plus. Au Chalet des Solidarités, on se retrouve tous les jours pour former une assemblée citoyenne et populaire où chaque décision est prise collectivement par le peuple et pour le peuple. Et l'idée a fait mouche. Alors aujourd'hui, 75 délégations de Gilets jaunes sont venues de toute la France pour former l'Assemblée des Assemblées. Se rencontrer, échanger, débattre, s'organiser pour ne plus se laisser confisquer la parole. La démocratie directe est en train de naître de la lutte des ronds-points, acte 1.
Ouais, mais pendant ce temps-là, en Andalousie, plein de vieux souvenirs redeviennent vivaces. Alors que l'extrême droite Vox accède au pouvoir pour la première fois en 40 ans de démocratie, les fantômes du franquisme hantent toujours la société espagnole.
Et c'est dans ce contexte politique que tu es parti, Antoine, en Andalousie, sur les traces d'une passionnariat française, méconnue du grand public, mais dont le destin tragique refait surface aujourd'hui.
Oui, on part à Cordoue, au cimetière de la Salute, sur les traces de René Laffont, une journaliste française fusillée le 1er septembre 36 par les putschistes qui veulent renverser la République espagnole. On est au tout début du soulèvement militaire qui mènera à 40 ans de dictature du funeste général Franco. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, il est encore difficile de retrouver et exhumer les corps de la centaine de milliers de républicains espagnols assassinés et dissimulés dans des fosses communes et clandestines. Et le retour de l'extrême droite au gouvernement andalou n'arrange rien et réveille les vieux démons. Oui, les vieux démons qui ont hanté les 40 années d'une démocratie laissée bien ficelée par un dictateur mort dans son lit de caudillo.
Alors jusque 17h sur France Inter, l'histoire de René Laffont, journaliste française fusillée par les franquistes, comme un bruit qui court, là où ça se passe, là où on creuse.
Comme un bruit qui court.
Qui manque-t-il?
Charlotte Perry.
Antoine Chao.
Cimetière de la Salute à Cordoue. Cementerio Nuestra Señora de la Salud. J'ai un appel là.
Si, dime, Florentina.
Si. Donde estás tú? Vale. Te espero aquí. Donde están los tres muros estos. De la memoria. Vale. No me olvides. Ne m'oublie pas, que aún te recuerdo, je me souviens encore de toi, debajo del plomo, sous le plomb, que embarga mis huesos, qui a pris mes os, qui a saisi mon corps, Miguel Hernández. Juan Gutiérrez Cachinero, Antonio Gutiérrez Díaz, José Gutiérrez Fernández, Tomás Gutiérrez González, Antonio Jurado Fernández y René Laffont. Voilà, on arrive à René Laffont, qui est aussi inscrite sur ce mur des morts pour la République, la liberté et la démocratie. Hola.
Florentina, ¿cómo estás?
Bueno, bien, bien y mal, ¿no?
Bien y mal, ouais.
Bon, ça va.
Bien et mal.
Ça va bien, enfin bien et mal.
Et bien, si se pouvait dire bien que
d'après. Comment ça peut aller bien si après 40 années de démocratie, après 80 ans depuis le coup d'État, on commence seulement maintenant les recherches? Enfin, c'est très long, tu le sais bien. Sur ces murs, il n'y a de toute façon pas tous les noms de ceux qui ont été victimes des représailles. On ne trouve que les noms des personnes qui figurent sur les archives qui ont été conservées, à la mairie et au cimetière, mais en sachant que beaucoup ont été détruites et qu'en plus, sur la période chaude de juillet 36 jusqu'à fin 36, on exécutait et on faisait disparaître les personnes dans les fosses sans s'embarrasser de déclarer quoi que ce soit ou clandestinement, n'importe où sur le territoire.
À la fosse ou étaient enterrés clandestinement dans quelque part du territoire d'Andalousie.
Alors là, il y a deux petites brouettes. Et il y a un petit espace où il n'y a pas de tombe. On est au bout du cimetière.
Hombre.
Oh, bonjour.
Virginia,
Virginia fait partie de l'équipe technique qui va s'occuper de l'exhumation.
Ah, muy bien.
Elle a une longue expérience. Elle a déjà travaillé sur d'autres fosses, notamment à Aguilar de la Frontera.
Allí está Elena. Está preparando los materiales, tenemos que montar la valla y demás.
Yo que soy nieta de víctima, ¿sabes?
Moi, je suis petite fille de victime.
La torturaron, la violaron, la
Ma grand-mère a été fusillée, torturée, violée.
Aquí hay una cosa ya clara.
Il y a quelque chose qui est clair.
Salga el gobierno, que salga en Andalucía, y salga
Peu importe le gouvernement qui dirigera l'Andalousie et qui prendra les mairies.
Yo no me voy a morir sin sacar a mi abuela, eso lo tengo claro.
Moi, je ne mourrai pas sans retrouver ma grand-mère. Et ça, c'est clair et net.
Hasta ahora era negarlo, decir que mi abuela me llegaron a decir en el juzgado.
Jusqu'à maintenant, tout était nié. Moi, me dit au tribunal d'aller plutôt chercher ma grand-mère en Russie.
Las personas que fueron asesinadas no han existido.
Les personnes qui ont été assassinées n'existent pas. Elles n'ont pas de mémoire, elles n'ont pas de passé.
Incluso para la familia se le borró.
Et même pour les familles, ça s'est effacé.
Y además se tuvo miedo de hablar de incluso de
Elles avaient même peur d'en parler.
Después, porque también a todas esas personas
et aussi à toutes ces personnes assassinées et victimes des représailles franquistes, en plus de les exécuter, on leur a volé leur patrimoine. Il a été réquisitionné. Parce que l'histoire, c'est l'histoire. Et
ce
n'est pas l'histoire officielle qu'ils ont racontée pendant 40 ans de démocratie qui couvrait la dictature, mais les recherches historiques qui sont menées maintenant par les équipes qui font les exhumations, par exemple, en utilisant les archives avec beaucoup de difficultés. Mais ce que l'on retrouve dans ce qui n'a pas été détruit, parce que beaucoup a été détruit, donne beaucoup d'informations. Donc il y a encore beaucoup à faire ressortir. Et à nouveau, certains veulent faire le silence. Mais ça ne sera pas possible. On parle de répression systématique pour des idées politiques. Et la répression sur les femmes a été bestiale. Elles ont subi directement, physiquement, une répression du genre très réfléchie. D'abord parce que les femmes, pendant la République, ont commencé à se libérer, à prendre conscience, à prendre des initiatives sur le plan politique. Et ça, dans un pays qui était aux mains du clergé et des propriétaires terriens. Parce que l'Espagne était un pays très médiéval. Et les femmes étaient leurs cibles. Alors ils ont attaqué, les violé, les tondre, leur faire boire de l'huile de ricin, les monter dans les villages, les humilier. Elles ont été victimes toute la dictature.
Et
je crois que je n'ai pas les mots pour raconter cette tragédie.
Nos courageux légionnaires et militaires vont apprendre à ces lâches de rouge ce que signifie être un homme. Et leurs femmes, communistes et anarchistes, auront aussi ce qu'elles méritent. Ne s'amusent-elles pas à l'amour libre ? Maintenant, au moins, elles sauront ce que sont de vrais hommes, plutôt que ce ramassis de pédales de miliciens. Elles n'y couperont pas, peu importe si elles protestent ou résistent.
Registre civil de Cordoue, à 10h15, le 12 novembre 1936. Le juge municipal procède à l'enregistrement du décès de René Lafont, de nationalité française.
Et toi, qu'est-ce qui t'amène ici alors, José? José García, hein, c'est ça?
José García Méndez.
petit-fils de républicain qui a passé la frontière le 7 février 1939 pour aller au camp de concentration de Barcarès.
D'accord.
Je fais partie d'une association mémorielle sur Bordeaux, je suis de Bordeaux, qui s'appelle Ay Carmela. Et je suis aussi vice-président d'une coordination d'associations mémorielles qui s'appelle Caminar et qui regroupe 17 associations au niveau national. À travers René Lafont, ce sont aussi les 2000 autres fusillés. En fait, nous, cette histoire nous intéresse parce que nous avons appris que René Lafont a été assassiné, donc elle est décédée le 1er septembre 1936. Qu'elle est enterrée parmi les fosses ici à Cordoue, que c'est une journaliste française qui a été la première femme assassinée dans un conflit mondial.
Femme journaliste,
ça a été la première. C'est une femme quand même, elle a été assassinée à 59 ans. Une femme qui, début du XXe siècle, licenciée en lettres, parlait 5 langues, l'espagnol, parfaitement l'espagnol, parfaitement. L'anglais, l'allemand, l'italien, le grec ancien. Donc c'est une femme qui est d'autre part libérée. Et au début du siècle dernier, on peut imaginer ce que ça pouvait représenter. C'est une femme qui fait partie des femmes qui étaient depuis le départ engagées vers le socialisme, qui pensait d'ailleurs qu'il n'y aura pas de guerre mondiale, qui était dreyfusarde, qui est venu souvent en Espagne. Et donc, nous travaillons sur les recherches généalogiques de René Lafont. Nous avons réussi à trouver, dans la septième génération, du septième degré, on va dire, une personne qui pourra éventuellement faire une demande afin que le corps soit rapatrié en France. Parce qu'on peut penser, et nous pouvons penser, que René Lafont mérite des honneurs de la France.
Et là, il y a Pablo qui est là, qui est un jeune ici de Cordoue, hein, qui a écrit justement une biographie, la biographie de René Lafont.
Mi nombre es Pablo Pérez Espino. Yo soy periodista, tengo 23 años y llevo aproximadamente un año investigando la vida de René Lafont.
Je m'appelle Pablo Pérez Espino, je suis journaliste et j'ai 23 ans. Et ça fait à peu près un an que je fais des recherches sur la vie de René Lafont.
Pablo, pourquoi vous vous êtes intéressé justement au cas de René Lafont?
Realmente porque René ha sido
C'est parce que René est une figure iconique à beaucoup d'égards. C'est une personne qui est fondamentalement révolutionnaire, passionnée par la culture, par la littérature, par l'art. Alors, quand on a appris que René avait malheureusement été très certainement fusillé ici, à Cordoue, qu'elle était probablement la première journaliste tuée dans l'exercice de sa profession, et qu'au final, c'est à cause des circonstances politiques de l'époque que son histoire, mais aussi son travail, était resté dans l'ombre, c'est à partir de là qu'on a essayé de recueillir le maximum d'informations sur René Lafont, pour pouvoir retracer le plus fidèlement possible sa vie et son histoire.
Les forçats de la volupté. René Lafont. Les villages succédaient aux villages. Après la sécheresse désolée de la Manche, l'Andalousie avait commencé. C'étaient des gorges merveilleuses, aux rochers escarpés que semaient de taches violettes des touffes de fleurs inconnues dans les pays du Nord. Des villages accrochés au flanc des montagnes. Et dans la plaine, des maisonnettes blanches, basses, que surmontaient des toits sombres, brunis par le soleil qui les calcinait. Et plus loin, des murailles se dressaient aveuglantes de blancheur sur un ciel d'azur limpide. Oui, c'était bien Cordoue la Blanche, Cordoba la Blanca, telle qu'elle se la figurait jadis dans ses rêves.
Elle est venue, fait le reportage sur la guerre d'Espagne, envoyé par le journal de Le Populaire, de la CFIO. Donc de Léo Blum.
Et ça a été, voilà, ces derniers jours ici, quoi.
Ces derniers jours, elle aimait de façon extraordinaire l'Espagne et elle est morte, assassinée en Espagne.
Le 1er septembre 1936, au tout début du conflit.
Tout début, hein. Donc, du coup d'État, quoi, ils s'étaient égarés, ils étaient trois, il y avait deux dans une voiture et ils sont tombés, nez à nez avec des franquistes. Et puis, derrière, tout s'est enchaîné, ils les ont tirés dessus, elle a été blessée au genou.
l'emmener en prison, et la prison, il savait très bien qu'elle allait finir ici. C'est vrai que nous sommes en train de rechercher, comme je le disais tout à l'heure, des descendants ou de la famille lointaine, parce que elle était célibataire, 59 ans, fille unique. Donc pour rechercher un petit peu tout ça, c'était pas du tout évident. Nous savons maintenant et nous cherchons à contacter ces personnes qui fassent une demande au niveau officiel. Que le corps de René Lafont, journaliste française exécutée en Espagne le 1er septembre 1936, puisse être identifié, exhumé et rapatrié en France.
Ce que sera la République espagnole, traduit de l'espagnol par René Lafont. Ce qui fait que bien des Espagnols se résignent bassement à supporter la tyrannie qui pèse sur notre pays, c'est la crainte des désordres qui pourraient éventuellement se produire. Oui, cela va mal, disent-ils. Alphonse XIII et les généraux perpétuellement vaincus du directoire ne valent pas grand-chose, mais s'ils s'en vont, qu'arrivera-t-il ?
Il y a eu 60 000 corps fusillés, personnes fusillées en Andalousie. La moitié de toute l'Espagne. À ce jour, seulement 420 ont pu être découverts.
C'est la question de la transition, cette transition démocratique qui était pipée, quoi. C'est ça, dès le départ.
Était ficelé. Aujourd'hui encore, des partis qui se disent de gauche ne disent « mais non, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher au roi ». Jamais il a été demandé aux Espagnols le choix entre une monarchie et la République.
Et là, il y a une cérémonie qui va démarrer où c'est l'ouverture en fait des fouilles ici, quoi. C'est le démarrage des fouilles après des années quand même de.
C'est l'acte
de
officiel.
Guerre administrative, quoi.
C'est l'acte officiel.
Se oye bien o no?
J'entends bien là.
Ahora. Bueno, pues en primer lugar darle la bienvenida.
Alors tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous accompagnent ce 10 janvier, en ce matin très froid, mais aussi très attendu et depuis longtemps.
Muy esperada, muy especialmente a los
tout spécialement aux familles des victimes du franquisme et aux représentants des associations mémorialistes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour initier le travail dans cette parcelle du cimetière Notre-Dame de la
Salude,
qui concerne toute la province.
Esta mañana la ciudad de Córdoba sigue trabajando.
Aujourd'hui, Cordoue veut s'acquitter d'une dette contractée il y a 82 ans avec des milliers d'habitants.
Con miles de cordobeses y de cordobesas. Y lo hacemos hoy.
Le début des fouilles avant l'exhumation des corps des victimes de cette répression franquiste qui a causé plus de 4000 assassinats dans notre ville est un acte de pleine justice et de réparation de crimes qui n'a jamais pu être fait depuis 82 ans.
On y va, Florentina. Donc là, il va y avoir symboliquement un début de fouilles, hein, c'est ça. Ahora, simbólicamente, van a empezar a escarbar, ¿verdad? Il y a les fils là des disparus qui, chacun leur tour, prennent la pioche. Les fils ou les petits-fils et qui, pour son père, pour son grand-père. Pour mon grand-père.
Pour mon père.
Pour mon père. C'est mon oncle. Et toutes ces femmes qui ont été assassinées. C'est Florentina qui a pris l'appel, la bêche. Mon père, et mon oncle. Oye, Florentino, qu'est-ce que ça t'a fait de donner ces coups de pioche là?
Bueno, fue como cuando uno rompe algo que está muy cerrado y quiere abrir.
Ça donne l'impression de fracturer quelque chose de très fermé et que l'on veut ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Et dedans, ce sont des personnes, des victimes. C'est une sensation compliquée parce qu'on ne pouvait pas y toucher. Et maintenant, on a l'impression qu'on peut enfin ouvrir et sortir de là. C'est une situation libératrice et triste à la fois.
Érase una vez una mariposa blanca que era la reina de todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas y le susurraba historia al clavel y a la violeta.
Comme un bruit qui court.
Mais la première personne qui a vraiment commencé à travailler et à enquêter sur la vie de René Lafont, c'est Patricio Hidalgo. C'est quelqu'un qui a documenté des milliers de victimes de la guerre civile, parmi lesquelles il y avait René Lafont. Et c'est ça qui a attiré notre attention. On ne pouvait pas faire autrement que de continuer son travail.
Décédé dans cette capitale le 1er septembre 1936, le juge municipal procède à l'enregistrement du décès de René Lafont, de nationalité française. Selon le certificat délivré par le médecin militaire en chef, c'est dans le cimetière de cette ville que le cadavre a été enterré.
La mort a été signée d'un médecin militaire des mois après la mort de René. Après, j'ai connu Don Luis de la Fuente, qui habitait ici, à cette maison. Il était voisin, un homme exceptionnel. Parce qu'avec 99 ans, il m'envoyait des emails, une mémoire exceptionnelle. Il m'a raconté comme une nuit, il était juste à côté des camions qui portaient les prisonniers procédant de la caserne d'artillerie. Quand les prisonniers se sont aperçus que les camions ne suivaient pas la direction à la prison, l'actuel Alcázar de los Reyes Cristianos, mais les camions suivaient vers la cimetière de la Salud, les prisonniers se sont commencés à crier. Et disait Don Luis, une femme française s'est jetée du camion. Le camion s'est arrêté et les gardes ont arrêté à nouveau la femme et on a continué. À peu de temps, nous avons entendu les coups de fusil, hein, mais il était de nuit, on ne voyait pas. À la matin, les fossoyeurs avec de petits carrillos de mano han recogido le corps pour le conduire à l'intérieur de la cimetière. À la retour à la caserne, Don Luis a parlé avec ses camarades et un camarade lui avait dit que la femme était française. À ce moment, j'ai fait la liaison avec la drôle inscription que j'avais trouvée à l'état civil. Conclusion, cette famille française, fusillée le 1er septembre, et était René Lafont.
Ce matin, quand je suis rentrée du cimetière, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. J'ai eu l'impression que toutes les personnes disparues allaient enfin réapparaître. Maintenant, j'ai le sentiment que ce cimetière peut enfin appartenir à tout le monde. Ouais, c'était très émouvant ce matin. Rentrer, de savoir que l'opération était entamée. Je suis tellement émue.
Là, il y a Virginia et Elena qui ont commencé à travailler de bon matin ici sur la parcelle Saint-Jamond. Il y a des pierres qui apparaissent, mais il faut y aller doucement. Il y a qui appelle Tuna Sepultura, non? C'est une tombe qui apparaît là.
Una, y aquí otra. Igual que esta seguramente.
Ángel Abad Morales, Juan Abril Pardiñeiro. Domingo Acedo González, José Acosta Vázquez, Antonio Acuña Carballar, Andrés Afán Montero, Manuel Aguilar Alvariño, Miguel Aguilar Espada, Juana Aguilar Sarmiento.
Et ça continue de l'autre côté, Pablo. Sur ces trois murs, il reste de la place, il reste des plaques de marbre qui sont restées vierges pour les prochaines exhumations. Et à la fin de cette liste, donc, qui reste à compléter, il y a un autre poème.
On a tué celui qui disait.
De Federico García Lorca.
Vert, c'est toi que j'aime, vert, vert du vent et vert des branches. Le cheval sur la montagne et la barque sur la mer.
He cerrado mi balcón, j'ai fermé mon balcon.
Il aimait les jardins secrets de Grenade, il aimait le vent.
Porque no quiero oír el llanto, parce que je ne veux pas entendre.
Il avait dit.
Les pleurs, les cris.
Je suis et je serai toujours du côté de ceux qui ont faim.
Pero por detrás de los grises muros.
Si je meurs, laissez la fenêtre ouverte.
Mais par derrière les murs gris.
Il avait dit. Non, ce sang, je ne veux pas le voir.
No se oye otra cosa que el llanto.
À Grenade, dans sa Grenade.
On n'entend rien d'autre.
Fut arrêté, jugé.
Que des cris.
Condamné à mort.
Des pleurs,
exécuté le lendemain,
des larmes,
le poète
Federico García Lorca.
Se le vio caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba, el pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, ¿sabes? Pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba, sí. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed. Pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminando entre fusiles por la calle larga, salir al campo frío. Aún con estrellas de la madrugada mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabe. Pobre Granada, en su Granada.
Oui, je vous envoyais un tweet en le 16 août. Et nous recherchons donc des descendants. Cette femme a été assassinée à 58 ans. Nous recherchons des descendants de la famille. Et il se trouve que un généalogue de Pau a réussi à trouver, à chercher. Et vous faites partie des descendants au 7e degré de René Lafont. Et bien écoutez, nous souhaitons oui, vous rencontrer, savoir si nous on recherche des membres de la famille qui, de façon à retrouver un ADN, de façon à ce qu'elle est dans une fosse commune, j'ai oublié de vous le dire, à Cordoue, avec 2000 autres corps. Et il se trouve que hier a eu, si vous voulez, a eu lieu une cérémonie qui a initié toutes les demandes qu'ont faites les associations mémorielles espagnoles et françaises hier sur Cordoue. Alors je vous avais envoyé, pardon. Alors effectivement, il va y avoir une reconnaissance de toutes les personnes avec l'ADN. Et c'est pour ça que nous aimerions avoir votre concours. Et notre objectif aussi, c'est de rapatrier le corps de René Lafont en France et qu'il y ait une reconnaissance nationale, parce que j'ai omis de vous dire que René Lafont est la première femme journaliste assassinée dans un conflit mondial. Pour le journal Le Populaire de la CFIO. Et le fait que vous soyez également journaliste, le hasard, c'est extraordinaire, quoi, je veux dire. Alors, effectivement, il va y avoir une reconnaissance de toutes les personnes avec l'ADN. On arrive... Ah, c'est passionnant, c'est extraordinaire.
C'est incroyable qu'elle appelle justement maintenant. Pendant que vous êtes à Cordoue, à côté de la pose de René. C'est comme si René nous appelait depuis là-bas, depuis la France, et qu'elle nous disait « Regardez-moi, retrouvez-moi ».
Ah oui, c'est une femme extraordinaire, extraordinaire. On est en Cordoue et ça klaxonne.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Que malamente. Y yo. Malamente. Malamente.
Aunque no esté bonita, la noche un día. Deja.
Une mystérieuse journaliste descendante de René Lafont. Antoine, je t'assure que ce n'est pas moi, malheureusement.
À voir, tu feras ton test ADN, Charlotte. En attendant, les fouilles continuent au cimetière de la Salute. Les restes des premières victimes du coup d'État franquiste fusillé à Cordoue ont été exhumés cette semaine et restent donc à identifier. Une affaire à suivre, en espérant que bientôt René Lafont réapparaisse, soit rapatrié en France et rentre au Panthéon, aux grandes femmes, la patrie reconnaissante.
Et pour mieux comprendre le contexte politique dans lequel ces recherches prennent place en Espagne, toi, Give, tu allais rencontrer Manuel Cervera-Marsal, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales.
Oui, parce qu'alors que beaucoup d'Espagnols continuent à creuser leur passé proche, le présent, lui aussi, voit ressurgir plein de vieux fantômes. On l'a dit, après les élections en Andalousie du 8 décembre dernier, le parti d'extrême droite Vox a pu, pour la première fois depuis la fin de la dictature en Espagne, entrer au gouvernement pour peser de tout son poids sur ses thèmes fétiches. L'immigration, l'antiféminisme et le refus des lois mémorielles. Celles-là même qui permettent de rechercher aujourd'hui la dépouille de René Lafont. Voilà pourquoi nous avons voulu retrouver ce chercheur en sciences politiques, Emmanuel Cervera-Marsal, parce qu'il est un observateur attentif de la société espagnole qui relève comment le parti Vox s'inscrit aussi dans une nouvelle stratégie des extrêmes droites européennes sous la bannière de Steve Bannon, l'ancienne éminence grise de la victoire de Trump, qui veulent fédérer en Europe une véritable internationale des nationalistes, où les fachos d'Espagne rêvent eux aussi de jouer un rôle.
Il y a du changement politique dans l'air en Espagne, où 12 députés du parti d'extrême droite Vox entrent en fonction aujourd'hui en Andalousie.
Il s'agit de la première représentation de l'extrême droite dans le pays depuis la chute de la dictature franquiste.
Vox, comme Vox Populi, le parti de droite qui a surgi dans le bastion socialiste, l'Andalousie, et ça c'est un tremblement de terre.
C'était une percée et une secousse politique de taille.
Autant dire que nous entendrons encore parler de Vox ces prochains mois.
Manuel Cervera-Marsal, bonjour.
Bonjour.
On a voulu vous voir et faire appel à vos lumières à cause de ces coups de pioche qu'on a entendus dans le reportage, les coups de pioche de la mémoire un peu douloureuse de l'Espagne, puisque rappelons-le, l'Espagne a vite digéré son passé franquiste, quitte à le mettre sous la table, qui a toujours aujourd'hui un mausolée de Franco avec toujours des débats pour exhumer son corps. Et là, ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est l'exhumation des corps de celles et ceux dont René Lafont, qui ont été tués par les milices franquistes, et qu'on essaye de faire ressurgir ce passé, alors que ressurgissent d'autres démons, et en particulier en Andalousie, avec le parti Vox, et l'extrême droite, qui réapparaît pour la première fois depuis la dictature.
Oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est qu'au moment de la transition politique, donc le lendemain du décès de Franco, il y a un processus qui a mis 3 ans de transition vers la démocratie. Et en fait, il y a eu un pacte à l'époque qui a été passé entre les élites franquistes et les élites, on va dire, démocratiques. Et ce pacte, c'était l'amnistie des crimes du franquisme. On met tout ça sous le tapis, on oublie. Ce qui fait qu'on a retrouvé d'anciens cadres du franquisme qui sont devenus tout d'un coup des cadres de la police, de la justice, même des dirigeants politiques. Manuel Fraga, le fondateur du Parti Populaire, le principal parti de droite aujourd'hui en Espagne, était un ministre de Franco. Voilà, donc ce genre de choses. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de traces du franquisme en Espagne. Des noms de rues, des statues, même s'il y a une loi qui dit qu'on doit supprimer tout ça. Mais en réalité, il reste tout un tas de rues, de statues. Il y a même la famille de Franco, sa descendance, est propriétaire de biens immobiliers estimés à hauteur de plus de 500 millions d'euros. Ils n'ont pas d'impôts à payer, voilà, parce qu'ils ont été nommés ducs au moment de la transition. Donc ils n'ont pas d'impôts, c'est des privilèges fiscaux assez hallucinants au XXIe siècle. Il y a encore un dernier exemple. Aujourd'hui, en Espagne, il y a une fondation Francisco Franco qui a pour tâche d'honorer la mémoire du dictateur. Cette fondation, elle reçoit des subventions publiques et chaque année, elle décerne le prix Francisco Franco à un député du Parti Populaire. Voilà, il reste des traces du franquisme.
La vallée de ceux qui sont tombés.
Le dictateur a été enterré dans ce mausolée près de Madrid en 1975.
Un mausolée monumental surmonté d'une gigantesque croix construite par des milliers de prisonniers politiques.
Alors que le Valle est devenu un lieu de pèlerinage pour quelques nostalgiques du franquisme, l'actuel gouvernement socialiste avait l'ambition de le transformer en mémorial.
Un vote pour exhumer les restes de Franco en Espagne.
Mais le projet, qui divise l'électorat, a été abandonné.
Décidément, l'Espagne n'a toujours pas fini de solder les comptes du franquisme.
Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération, hein, des gens qui ont 30, 40, 50 ans, qui ont en réalité pas vraiment connu le franquisme ou alors quelques années dans l'enfance et qui font ce travail qui demande vérité, justice et réconciliation au nom de leurs parents, de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents et donc, voilà, qui demandent à ce qu'on ouvre les fosses communes, à ce qu'on rebaptise les noms des 40 rues à Madrid qui honorent des anciens dignitaires du franquisme. Ces gens, ces associations de défense de la mémoire historique font le travail qui, quelque part, n'a pas été fait il y a 40 ans au moment de la transition.
Sortir des cadavres du placard, en gros.
Sortir des cadavres du placard et de leur offrir une sépulture digne de ce nom. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'Espagne bascule à droite, en tout cas en Andalousie, c'est ce qui vient d'arriver aux récentes élections régionales, où pour la première fois des 40 ans de l'histoire de la démocratie espagnole, on a un parti d'extrême droite qui entre dans un gouvernement régional, en l'occurrence Vox, qui est un parti foncièrement anti-immigré, foncièrement contre le droit des femmes, contre le droit des homosexuels, qui propose de revenir sur toutes les avancées d'égalité des droits qui ont été faites ces dernières années. Et donc, dans ce contexte d'arrivée au pouvoir en Andalousie d'un gouvernement centre-droite, droite, qui a été permis parce qu'il y a eu le soutien de l'extrême droite, il manquait quelques voix.
Il n'y a pas eu de cordon sanitaire autour de ce parti.
Il n'y a pas eu de cordon sanitaire, pour plusieurs raisons. Hein. C'est que d'abord, il faut voir que Vox, en réalité, ses principaux dirigeants, ce sont des transfuges du Parti Populaire. C'est des gens qui sont tous issus du Parti Populaire, qui étaient d'anciens députés ou redéputés de ce parti. Donc finalement, ces gens-là, entre Vox et le Parti Populaire, on se connaît. Et qui plus est, aujourd'hui, il y a une vraie droitisation du Parti Populaire qui, suite à la destitution de Mariano Rajoy, qui était le président du gouvernement et qui a été destitué pour une grave affaire de corruption en juin dernier, suite à ça, du coup, le Parti Populaire a dû se doter d'un nouveau président. Il s'appelle Pablo Casado. Et ce Pablo Casado, c'est vraiment la droite dure qui gouverne. C'est quelqu'un, par exemple, qui menace Carles Puigdemont, le leader de l'indépendantisme catalan, de se faire décapiter. Voilà, c'est une menace qu'il a ouvertement formulée sur Twitter. On n'est pas forcément très étonné de voir cette alliance entre la droite conservatrice et l'extrême droite ouvertement xénophobe, parce que finalement il y a quand même des passages aussi bien idéologiques que vraiment des transferts de personnes entre ces deux partis.
Il faut choisir. Nous autres Espagnols avons des millions de raisons d'être fiers de notre histoire et de nos symboles. Ils nous traitent de fachos. Nous répondons patriotisme. Il faut défendre l'identité chrétienne. Nous ne laisserons pas la loi islamique se réinstaller sur notre terre. Ils appellent cela de l'islamophobie, mais c'est la liberté. Nous devons renforcer nos budgets de défense et équiper les membres des forces de sécurité. Ils appellent cela le bellicisme, mais c'est de la sécurité.
Manuel Cervera-Marsal, le parti Vox, c'était 0,2% des voix aux législatives de 2016. Et ils avaient un slogan, vive l'Espagne, vive la police nationale, vive la garde civile et vive le roi. C'est en particulier le refus de ce travail de mémoire et de ces lois mémorielles. C'est aussi la place des femmes et c'est aussi la nation espagnole contre les tiraillements comme il y a eu en Catalogne.
Oui, oui. Alors la place des femmes, effectivement, c'est quelque chose de très important en Espagne. Depuis une dizaine d'années, il y a eu un millier de femmes tuées par leur mari de féminicides. Il y a des inégalités de salaire à poste égal qui sont extrêmement fortes. Et tout ça, ça a entraîné l'an dernier un mouvement féministe qui est le plus grand de tous les pays de l'Union européenne. Le 8 mars dernier, il y a eu 6 millions de femmes en Espagne qui ont fait une grève générale. C'est-à-dire elles se sont pas contentées de manifester, elles ont arrêté d'aller au travail et arrêté de faire le travail aussi domestique, puisque c'est la double journée de travail des femmes. 6 millions, c'est énorme. Et en réaction à ça, eh bien, Vox explique que les féministes sont des féminazis qui provoquent une crise d'identité chez les hommes, qui poussent les hommes au suicide parce que ils ont des moins bonnes notes à l'école que les jeunes filles, parce que ils ont plus de travail à cause des femmes qui sont rentrées sur le marché du travail. Enfin bref, tout le malheur des hommes.
C'est vraiment les machistes qui jouent les victimes.
Voilà, c'est les machistes qui pleurnichent parce que les femmes seraient en train de les opprimer alors que les femmes demandent juste l'égalité.
Alors Vox, c'est le parti anti-immigration et anti-indépendantiste, mais c'est aussi le parti anti-féministe. Hein, le féminisme travaille à la désintégration du modèle de civilisation occidentale.
C'est une première en Espagne, une grève générale des femmes suivie par des millions d'Espagnols.
Le parti Vox souhaite aussi abroger la loi contre les violences machistes. Les électeurs de Vox sont pour la plupart des hommes de 45 ans qui gagnent en moyenne 2000 euros par mois et qui ont une idéologie d'extrême droite.
Donc ça, c'est le premier. Il y a ce ressort-là chez Vox, hein, vraiment l'antiféminisme. Il y a un deuxième ressort, c'est l'exaltation de l'identité espagnole. Et alors ça, c'est quelque chose de récent qui est lié au fait que, ça ne vous aura pas échappé, en 2017, l'événement majeur qui a frappé l'Espagne, c'est le raidissement, hein, la crispation extrêmement violente du conflit catalan. Avec
vraiment un mouvement sécessionniste.
Un mouvement sécessionniste en grande partie, parce que je le dis, parce que qu'on soit d'accord ou pas avec ce mouvement, c'est pas ma question, mais par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce mouvement était pacifique, non violent, c'est fait à partir de grandes manifestations regroupant plusieurs millions de personnes, à partir d'un référendum organisé le 1er octobre 2017, où 2 millions de personnes sont allées voter pour l'indépendance de la Catalogne. C'était
référendum illégal selon les autorités nationales.
C'était tout à fait illégal, mais c'était non violent. Et la réponse du gouvernement espagnol à l'époque, le gouvernement de droite de Mariano Rajoy, ça a été d'envoyer les flashballs, la matraque, enfin des choses qui parlent aussi aux manifestants français. Ça a été dénoncé par toutes les organisations internationales, par toutes les organisations des droits humains. Une réponse vraiment à coup de matraque. Et donc ça a crispé et ça a polarisé les positions. En fait, ça a radicalisé les indépendantistes catalans, mais ça a aussi radicalisé les unionistes espagnols.
Dont fait partie cette extrême droite.
Vox, voilà, qui prétend être la seule garante de l'unité de l'Espagne, comme ils le disent.
Assez d'outrages et de vexations. Ils méprisent l'Espagne et sa capacité de réaction. Voilà pourquoi nous avons un gouvernement qui est complice de l'invasion migratoire, qui plie devant la Catalogne et qui continue le lent suicide de l'État face aux autonomies. Parce qu'ils n'aiment pas l'Espagne. C'est le gouvernement de l'Espagne morte, mais l'Espagne vivante a son génie. Elle a son peuple et elle a son roi. Et aujourd'hui, l'Espagne a aussi Vox.
Et le dernier point, c'est l'immigration. L'immigration, un sujet qui pourrit le climat politique de tout un tas de pays. Hein. Enfin voilà, en France, on est bien placé pour connaître ces problèmes de xénophobie. Il faut voir qu'en Espagne, jusqu'à il y a un ou deux ans, ça a très largement épargné l'Espagne. Il n'y avait aucun parti, même les partis de droite ne jouaient pas sur les ressorts xénophobes, nationalistes, etc. C'était pas un problème. En Espagne, il y a tout un tas de villes qui se sont déclarées villes-refuges, qui accueillaient les immigrés. D'ailleurs, en 2005, ils ont régularisé d'un seul coup 500 000 sans-papiers. Enfin voilà, ils n'avaient pas de problème avec les immigrés. Mais là, en fait, ça les a rattrapés depuis un an ou deux. Et on le voit, hein, dans les enquêtes de sondage, on demande aux Espagnols, quelles sont vos trois principales préoccupations aujourd'hui? L'immigration, jusqu'en 2015, il y avait 2% des Espagnols, c'est dingue, 2% des Espagnols qui se disaient préoccupés par l'immigration. Aujourd'hui, on est à 14-15%, tout ça étant encouragé à nouveau par des partis politiques qui jouent sur la peur et sur la haine.
Nous ne voulons pas de l'Union européenne d'Angela Merkel qui a ouvert les portes à l'immigration massive et qui est en train de transformer l'Union européenne.
Vox confirme qu'il est devenu l'un des partis politiques les plus puissants d'Espagne. Je le félicite au nom de la délégation du Rassemblement national au Parlement européen. Bravo Santiago.
Et c'est en ça que ce discours d'extrême droite, il est en parfaite syntonie avec les autres extrêmes droites européennes. Marine Le Pen a félicité les élus Vox, tout comme Salvini, tout comme le président autrichien, tout comme Orban. Dans quoi ce mouvement inédit de réapparition, de résurgence de l'extrême droite en Espagne s'inscrit dans un mouvement européen plus général?
Oui, ce qui se passe en ce moment avec la montée de Vox en Andalousie était un phénomène isolé quelque part, on serait rassuré, mais en l'occurrence c'est loin d'être le cas. Ce à quoi on assiste en Europe là depuis à peu près un an, c'est des discussions intenses entre les différents leaders de l'extrême droite européenne, avec Salvini qui va voir Orban, qui rencontre Marine Le Pen, qui discute avec Vox. Tous ces gens-là sont en train de discuter, de se rapprocher, de créer une sorte d'international de la xénophobie en Europe. Et
tout ça avec sous les auspices de l'ancien conseiller de Donald Trump.
C'est le point sur lequel, justement, j'allais venir, qui est extrêmement important, c'est que Steve Bannon, l'idéologue, le mentor de Donald Trump, bon, qui était aussi le fondateur de Breitbart News, le site le plus antisémite, conspirationniste, xénophobe, mais extrêmement consulté, hein, des États-Unis, Steve Bannon, qui a finalement été limogé par Donald Trump, est venu s'installer à Bruxelles pour prendre la tête d'une fondation qui s'appelle The Movement Movement, qui est financé à nouveau par un obscur politicien d'extrême droite belge. Et l'idée de The Movement, c'est vraiment d'être à la fois un think tank pour l'extrême droite qui affirme une idée, c'est soyez fiers d'être des racistes. C'est le discours, je cite dans le texte.
Mais là, c'est pas de l'interprétation, vous faites.
Interprétation, non, c'est Steve Bannon qui s'adresse. Je me demande si c'était pas avec le Front National justement.
Let them call you racist.
Laissez-vous appeler raciste.
Let them call you xenophobes.
Mais laissez-les vous appeler xénophobes.
Let them call you nativist.
Laissez-vous les appeler nativistes.
Wear it as a badge of honor.
Soyez fiers d'être racistes, revendiquez votre misogynie, revendiquez votre islamophobie. Enfin voilà, c'est ça sa ligne idéologique. L'outrance, c'est grâce à son outrance que Donald Trump a gagné les élections. Donc l'outrance et la ligne stratégique, c'est il faut fédérer les extrêmes droites, donc il faut notamment voilà que les leaders se rencontrent, se soutiennent les uns les autres, et Steve Bannon a discuté avec Vox, et discute avec les autres, et voilà, et un peu le nœud, le point d'articulation entre ces différents mouvements, et c'est ça peut-être qui est le plus inquiétant.
What I've learned is you are part of a worldwide movement.
Ce que je vois, c'est que vous faites partie d'un mouvement mondial
that is bigger than France,
qui est plus grand que la France,
bigger than Italy,
que l'Italie,
bigger than Hungary,
que la Hongrie,
bigger than all of it,
plus grand que tout ça.
And history is on our side.
Et l'histoire est de notre côté.
Ils sont polonais, tchèques, grecs ou encore autrichiens, des leaders nationalistes européens pour défendre une autre Europe.
Et le leader de Vox ne cache pas ses références politiques.
Ce que Trump représente avec toutes ses nuances et tous ces mouvements qui émergent en Europe, tout ça va se pérenniser.
Moi, je regarde un petit peu ce qui se passe en Espagne. Et je vois qu'en Espagne, ce serait peut-être Vox qui serait le plus proche des idées qui sont semblables à celles que nous défendons en France et que défend Matteo Salvini en Italie.
Parce que chaque jour, nous sommes plus forts et ils sont plus faibles.
Vive la France.
Merci beaucoup.
Dernière question. Le fait de creuser dans le sol de l'Espagne, dans la mémoire douloureuse de l'Espagne, c'est aussi une manière de se réapproprier, de creuser aussi ce qu'a été l'immense espoir de la République espagnole, l'espoir démocratique dans une société qui était on ne peut plus fermée que celle qu'on a aujourd'hui.
Oui, bien sûr, quand aujourd'hui, c'est un vaste mouvement, le mouvement, ils appellent ça en Espagne, de recuperación de la memoria histórica. Quand on essaye de faire ressurgir ces questions-là, c'est pas uniquement pour parler des crimes franquistes, de la torture, enfin de tout ça, c'est aussi pour se réapproprier notre histoire, l'histoire des luttes, l'histoire de l'émancipation, l'histoire de la République entre 31 et 36, voilà, qui a fini massacrée dans le sang, mais qui a eu se réapproprier tout ça, effectivement, c'est une façon de montrer que les luttes d'aujourd'hui se fondent pas sur rien, se fondent sur les luttes du passé, qu'elles ressurgissent avec de nouveaux noms, de nouveaux visages, mais voilà, qu'il y a une histoire souterraine de l'émancipation, il y a une étincelle qui est là, qu'il s'agit de rallumer, faire perdurer, mais je crois que c'est Bertolt Brecht qui disait ceux qui luttent ne sont pas certains de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu d'avance. Ben, au moins, on aura essayé.
Y las tropas invasoras, buena París Arecio, ay Carmela, buena París Arecio, ay Carmela, furor de los traidores, furor de los traidores, lo descarga su aviación, ay Carmela, lo descarga su aviación, ay Carmela. Nada pueden bombas, pero nada pueden bombas. Prometemos resistir, ay Carmela, prometemos resistir, ay Carmela. El ejército del Ebro.
Bum, 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 bum.
Le dernier ouvrage de Manuel Cervera-Marsal, Les nouveaux désobéissants citoyens ou hors la loi, est disponible aux éditions Le Bord de l'eau. C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations et la playlist sont sur le site franceinter.fr. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux que le bruit court, hashtag comme un bruit. Juste après les infos, émission spéciale en hommage à Michel Legrand, présentée par Anna Sigalevitch. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.